Paulhache de Jérôme Vuittenet, chapitre 15. Le cahier des charges du pôle de compétitivité hydrogène, baptisé Pôle H, fut reçu par la Direction générale des entreprises du ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie le 29 décembre 2004, soit 2 jours seulement avant la date limite annoncée, qui fut du reste repoussée au 28 février 2005. 105 dossiers furent examinés et 67 acceptés, officiellement pour leur originalité, leur viabilité financière et leur aspect stratégique au niveau national. Officieusement, tout ne se passait bien sûr pas exactement de cette façon. Le directeur général des entreprises, Jacques Delattre, était en contact direct et permanent avec le cabinet du ministre qui tirait toutes les ficelles du ministère dans l'ombre. Tous les dossiers sont donc passés entre les mains du chef de cabinet qui, seul, en fonction de considérations purement politiques, validait ou invalidait les projets. Il ne s'agissait pas simplement d'accepter les projets présentés par les amis politiques du ministre et de refuser les autres. C'était, comme au billard, un passe-temps qu'affectionnait particulièrement le chef de cabinet, un coup à 3 bandes. Bien sûr, les présidents de région du bon bord politique avaient beaucoup de chances de voir leurs projets acceptés, mais ceux de l'opposition qui présentaient un pôle mariant leur collectivité avec un puissant industriel de la région devaient être examinés de près car un lobbying intensif pouvait conduire à des situations de chantage à l'emploi, voire des difficultés de financement des futures campagnes électorales. Enfin, les projets des régions gérés par les ennemis déclarés du ministre en poste étaient examinés à la loupe, eux aussi, et s'ils s'avéraient être voués à l'échec, mal ficelés, irréalistes, on les subventionnait tout de même pour précipiter la chute du baron régional concerné en prévoyant de s'appuyer sur sa mauvaise gestion des subventions publiques. Pour chaque dossier, de nombreux coups de téléphone durent être passés, à tous les notables de la région. Les avantages et les inconvénients politiques étaient pesés et sous-pesés. Les résultats détaillés des dernières élections régionales étaient passés au crible, pour estimer si la région était susceptible de basculer lors des prochaines échéances, dans un sens ou dans l'autre. Et en fonction de tout cela, le dossier atterrissait sur la bonne ou la mauvaise pile. Le pôle H fut accepté sans que personne, si ce n'est le ministre et son chef de cabinet, ne sache exactement pourquoi. Delattre dut alors, comme pour les autres dossiers, produire un rapport mettant en avant les aspects positifs du projet ayant conduit à son acceptation. Ses services, la plupart du temps, étaient parfaitement incompétents dans les domaines abordés par les projets proposés par les régions. Aussi, l'exercice était difficile et risqué, car il n'était pas impossible qu'un journaliste zélé mette son nez dans ces rapports qui étaient rendus publics. Le directeur général des entreprises se méfiait particulièrement de la presse quotidienne régionale, la PQR, comme il l'appelait, non sans une certaine forme de dédain. Les journalistes provinciaux avaient en effet pris la sale habitude de lui chercher des poux, alors que la presse nationale était menée en bateau simplement par quelques communiqués officiels émanant directement du ministre. Pour justifier l'acceptation du pôle H, il s'appuya sur les travaux scientifiques mettant en avant le changement climatique et ce, non moins alarmant, concernant le pic pétrolier. Sans mesurer vraiment la portée de ses travaux, il fit recopier bêtement par ses services les conclusions des études les plus célèbres, celles du Club de Rome en 1972, qui démontraient l'effondrement de notre modèle de développement basé sur le pétrole avant 2100, quel que soit le scénario choisi, et celle du géophysicien Marion King Hubbert dans les années 1940, qui démontrait que la courbe de production du pétrole suivait une courbe en cloche, passait par un maximum, puis déclinait inexorablement. Delattre n'était pas un scientifique. Comme tout le monde, il avait fait Sciences Po et était devenu une machine à produire du rapport administratif. Il était capable de générer 12 pages de développement cohérentes à partir d'une simple phrase du ministre. Il savait pertinemment que plus les mémoires qu'il produisait étaient longs, ennuyeux et truffés de langue de bois administrative, moins il y avait de chances qu'un journaliste ou un militant puisse y trouver de quoi le contester. Il n'hésitait pas à multiplier les références à des travaux difficilement accessibles, à citer des scientifiques connus ou inconnus. Il lui est même arrivé quelquefois d'inventer le nom d'un philosophe ou d'un penseur et de lui attribuer une de ses propres citations, sans bien sûr que quiconque ne s'en aperçoive. Dans le cas précis du rapport qui a permis de justifier l'acceptation du pôle hydrogène, les erreurs de raisonnement scientifique étaient manifestes et les paradoxes nombreux. Ainsi, considérer l'hydrogène comme une alternative au pétrole était une erreur commune. L'hydrogène n'existant pas à l'état naturel, sa production elle-même nécessite de l'énergie, au contraire du pétrole qui peut être directement extrait du sous-sol. Autrement dit, pour utiliser l'hydrogène comme carburant, il fallait d'abord dépenser du pétrole ou du gaz, ce qui ne réglait pas la question de l'épuisement de ces ressources. Par ailleurs, les conclusions du Club de Rome remettaient en cause le principe même de recherche de croissance perpétuelle, alors que dans son rapport, Delattre insistait sur les retombées économiques du pôle H sur le développement de la région. Il y avait, comme cela, une dizaine de grossiers contresens, d'approximations pseudo-scientifiques et d'affirmations péremptoires dans ce rapport et dans les autres, qui auraient mérité un examen approfondi et un minimum de débats contradictoires, compte tenu des sommes d'argent public qui étaient en jeu. Au lieu de cela, seules quelques personnes, une trentaine peut-être, eurent accès aux documents, et parmi elles, très peu les lurent intégralement. Les journalistes politiques n'avaient eux-mêmes aucune connaissance scientifique leur permettant de contester le contenu de ces rapports, et leurs confrères des revues scientifiques avaient autre chose à faire que de s'intéresser à la politique. Les citoyens, eux, pourtant directement concernés par le financement du projet par leurs impôts, n'eurent pour la plupart jamais connaissance de l'existence même de tels rapports. Seul un militant écologiste isolé, habitant dans la région tenue par François Pernier, avait suivi le dossier Pôle H dès les premières allusions aux séances du Conseil régional auxquelles il assistait en tant que spectateur. Nicolas Verdier s'était en effet procuré le cahier des charges du projet et le rapport d'acceptation du ministère. Il les avait décortiqués, analysés, critiqués. Farouchement opposé au concept de voiture individuelle, ce projet ne lui plaisait évidemment pas. Dès la parution du rapport, il avait alerté les journaux locaux et avait tenté de mettre en place, sans succès, une association anti-pôle H pour défendre les intérêts des cyclistes et proposer un contre-projet de développement des pistes cyclables et des transports en commun. Il a ensuite participé à toutes les réunions publiques et conférences de presse organisées par le pôle de compétitivité dans le but d'attirer l'attention sur le risque majeur, selon lui, de la prolifération des véhicules à hydrogène, l'explosion.